Dans cette séquence, nous allons formaliser un peu le concept de hiérarchie urbaine qui décrit l'ensemble des tailles de ville. Il s'agit d'une forme pyramidale, en quelque sorte, des inégalités de taille à l'intérieur d'un système de ville. Mais souvent, les géographes emploient l'expression de hiérarchie urbaine pour englober un ensemble de différences qualitatives ou d'écarts quantitatifs qui sont associés aux inégalités de taille des villes. La forme des hiérarchies urbaines, quel que soit le territoire, quelle que soit la région ou le pays du monde où on l'observe, est similaire. On a donc ici un modèle universel avec beaucoup de petites villes, moins de villes moyennes et très peu de grandes villes. Et qui plus est, le nombre de ces villes suit une série mathématique régulière, c'est une progression géométrique inverse de la taille des villes. Nous pouvons l'observer rapidement ici à l'échelle mondiale, même si l'ensemble des villes du monde ne forment pas un système, nous avons malgré tout une distribution qui a cette forme pyramidale en 1950 comme en 2010, avec moins de villes qui ont 10 puissance 7, c'est-à-dire 10 millions d'habitants. Et vous observez que lorsque vous descendez progressivement jusqu'à 10 000 habitants, 10 puissance 4, et bien chaque fois que la population des villes est multipliée par 10, le nombre des villes, lui, est divisé par 10. Ce modèle de hiérarchie urbaine, en fait, c'est une description d'inégalité, mais ce n'est en aucun cas une norme. Personne n'édicte le fait qu'il faudrait que les villes suivent exactement cette progression. C'est donc une constatation et donc non pas un modèle à imiter. Et de même, la notion de hiérarchie ici n'a pas le sens de commandement comme on peut l'avoir dans la hiérarchie d'une entreprise. Et ce n'est pas non plus une hiérarchie qui impliquerait qu'une ville de plus petite taille proche d'une grande ville en soit nécessairement dépendante. En fait, c'est une forme de distribution statistique qui a été représentée initialement par, en particulier, le statisticien George Kingsley Zipf, comme une représentation graphique avec en abscisse le rang des villes, rangé par ordre décroissant. Donc c'est la même chose que le nombre des villes dont la population est plus grande que, et cette population, elle, est figurée en ordonnée, et les deux sont des échelles logarithmiques, si bien que nous avons ici, vous le voyez dans tous les cas étudiés, entre l'Afrique du Sud, qui est le plus petit pays, qui a donc le moins de villes et les populations les plus faibles, jusque en Chine et en Inde, qui sont les deux courbes supérieure, nous avons à peu près le même modèle, un alignement de quelques milliers de villes sur des courbes qui sont relativement droites et qui représentent donc un modèle statistique, lequel avait d'abord été imaginé par le géographe Auerbach à partir du produit de la population et du rang des villes, toujours rangés par ordre croissant. Décroissant de taille, eh bien, entre la population de la ville et son rang, si on multiplie ces deux nombres, on obtient un nombre qui est une constante caractéristique d'un pays donné. En fait, la formulation qu'a choisie Zipf est plus astucieuse parce que ce cas variant d'un pays à l'autre n'est pas très utile. Donc, il a simplement, vous le voyez, utilisé la même formule que Auerbach, mais en exprimant la population d'une ville comme l'inverse de son rang. Et dans cette relation, on peut même ajouter un exposant alpha au rang RI de la ville. L'intérêt, c'est que lorsqu'on la transforme en logarithme, cette équation non linéaire devient une droite de pente moins alpha, qui correspond donc à une mesure de l'inégalité de la taille des villes. On va s'en rendre compte très vite sur ce tableau, où, qui est complètement théorique, où on a imaginé une première ville de population 1 million d'habitants et calculé quelle serait la dimension de la deuxième ville, de la dixième, de la cinquantième et de la centième. Ainsi, lorsque alpha vaut 1, eh bien, la population de la deuxième ville, c'est exactement la moitié de celle de la première, 500 000 habitants, et la population de la centième ville, c'est la centième partie de celle de la première, donc ici 10 000 habitants. Alors, si le paramètre alpha est plus petit en valeur absolue, s'il vaut 0,8, vous voyez qu'on a une distribution beaucoup moins inégalitaire, puisque cette fois, la centième ville atteint une population de 25 000 habitants. En revanche, si on prend un paramètre alpha plus grand, en valeur absolue, 1,2, là, on a une distribution beaucoup plus inégalitaire, puisque la population de la centième ville n'est plus que de 3 900 habitants. Et ces inégalités, en fait, on les observe dans les différents pays du monde, avec des ordres de grandeur de alpha observés entre 0,7 et 1,3. Et étonnamment, ce n'est pas le niveau de développement qui va engendrer plus ou moins d'inégalités entre les villes d'un même pays. En moyenne, la valeur alpha est la même pour les deux sous-ensembles, pays développés, pays en développement. En revanche, c'est la date, l'histoire du peuplement qui va différencier les pays de l'Ancien Monde où les valeurs de alpha sont relativement modestes, 1,02 en moyenne, et celles du Nouveau Monde où là les valeurs sont beaucoup plus élevées, alpha en moyenne vaut 1,18 pour cet ensemble de pays. La comparaison de l'Europe et de l'Amérique du Nord sur ce graphique établi par François Moriconi-Ébrard nous montre effectivement de manière flagrante les différences entre la répartition des grandes et des petites villes dans ces deux sous-ensembles. Vous voyez que la courbe de l'Europe, qui est en très plein, plafonne aux alentours de 10 millions d'habitants pour la plus grande ville, mais en revanche, elle comporte beaucoup de villes puisque elle a environ, il y a en Europe, plus de 3 ou 4 000 villes de plus de 10 000 habitants. Alors qu'en Amérique du Nord, la courbe en pointillé, nous avons des villes dont les dimensions peuvent être beaucoup plus grandes. Les 30 premières grandes villes américaines sont toutes plus grandes que les 30 premières villes européennes. Mais en revanche, le peuplement est beaucoup plus concentré. On n'a environ qu'un millier de villes de plus de 10 000 habitants à cette époque pour toute l'Amérique du Nord. En fait, ceci est général à l'échelle mondiale. On peut établir une relation entre le degré de contraste dans les hiérarchies urbaines, mesuré par le paramètre alpha, et la vitesse des communications au moment où le système de peuplement s'est mis en place. On a ainsi, en Europe comme en Inde, où les villes sont très anciennes et se sont établies à des époques où l'on marchait à pied ou à cheval, vous le voyez, on a des espacements entre les villes qui sont relativement resserrés, de l'ordre de 10 à 20 km, et des coefficients alpha qui, dans les années 2000, restent inférieurs à 1. En revanche, dans les pays signalés en orange, États-Unis, Afrique du Sud, où les réseaux urbains se sont développés avec le chemin de fer puis l'automobile, les espacements sont de l'ordre de 50 km entre deux agglomérations de plus de 10 000 habitants et les valeurs du paramètre alpha dépassent les valeurs 1 et sont aujourd'hui de l'ordre de 1,15. On retrouve ces différences dans les valeurs du paramètre alpha pour les différents pays que nous avons déjà étudiés, l'Europe, les États-Unis et l'ensemble des BRICS. Nous avons en effet ici, en Afrique du Sud, aux États-Unis, des valeurs alpha de 1,15, alors que en Inde, en Europe, les valeurs sont inférieures à 1. Plus précisément, ces valeurs ont été mesurées pour l'époque récente et sur un très grand nombre de villes construites dans des bases de données harmonisées de la même façon. Et elles vous donnent ici une idée donc de l'ordre de grandeur, des contrastes de dimensions entre les villes qui sont beaucoup plus importants aux États-Unis, en Afrique du Sud, voire même dans l'étendue de l'ex-URSS, puisque nous avons là des villes récemment développées dans la partie sibérienne qui est de colonisation plus récente. En revanche, les pays d'ancienne urbanisation, Inde, Chine, Europe, et curieusement, le Brésil arrive avec des contrastes hiérarchiques beaucoup moins importants. Elfi Svert, qui a étudié l'Inde et la Chine en établissant des bases de données historiques et harmonisées. Pour l'Inde, vous avez un graphique ici qui représente les courbes grand taille depuis 1901, puisque l'Empire britannique avait établi très tôt un système statistique précis, jusqu'en 2001, courbe en rouge. Vous voyez une élévation régulière de la taille des villes. Vous retrouvez les trois premières villes qui forment un plateau sur cette courbe. C'est l'avantage de la représentation rang taille de ZIPF par rapport aux représentations statistiques plus habituelles des distributions de nombre d'éléments en fonction de leur dimension. Et vous voyez donc une distribution relativement régulière avec des pentes qui vont s'accroissant au fil du temps. Alors qu'en Chine, nous avons eu la surprise, en comparant les courbes en 1964 et en 2000, de découvrir que la pente, donc depuis les époques d'établissement de la République de Chine jusque aujourd'hui, eh bien la pente a l'air de diminuer, ce qui signifierait une relative réduction des inégalités hiérarchiques, à moins que cela ne cache d'autres formes d'expansion des grandes villes qui seraient différées à quelque distance de ces très grandes villes par implantation de villes nouvelles. Voilà pour conclure donc une réflexion qui nous incite à approfondir la manière dont les villes évoluent.